Star Wars en direct remercie ses partenaires Mint in Box, Planet Star Wars, Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec, la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science-Fiction.
Bienvenue à Star Wars en direct depuis plus de 20 ans, la voix du fandom Star Wars pour cette édition série qui sera consacrée à la fin de la saison 2 de The Bad Batch avec les épisodes 14, 15 et 16. Donc ici Loïc, pour m'accompagner, je suis avec Sylvain. Salut Sylvain.
Salut Loïc, salut tout le monde.
Salut tout le monde. Et donc voilà, on va en binôme finir tranquillement cette petite saison de The Bad Batch. Alors on va faire les petites coutumes Star Wars en direct et je vais commencer en vous rappelant que nous avons d'autres émissions qui sont sorties récemment. Vous retrouverez sur vos plateformes habituelles et sur YouTube une émission consacrée à Star Wars Vision la saison 2 puisque les amis québécois ont eu la chance de pouvoir la voir en avant-première. Une édition spéciale enregistrée à QC en live avec une fine équipe où vous avez parlé d'Andorre et de la fin, et de l'espoir, pardon, de la fin du Filoniverse. Et une émission que je vous conseille qui est très très intéressante.
La meilleure émission qu'on ait faite.
Peut-être pas la meilleure, mais elle était vraiment sympa. Et un Star Wars en direct collector consacré au May the Fourth, avec un petit tour rapide des produits qui sont sortis en cette journée du May the Fourth. Voilà. Bien sûr, on vous rappelle que vous pouvez faire un tour sur notre boutique à l'adresse starwars.direct/boutique pour nous soutenir et trouver les super designs. Mais maintenant, vous avez l'habitude. Et si vous nous suivez sur YouTube, en direct ou en différé, vous avez la possibilité, si vous avez envie de nous soutenir également, de nous faire un super don. Ça nous aide à payer notamment les serveurs, mais pas que. Voilà. Et ben, moi, sur ce, je vous propose qu'on passe tout de suite en hyperespace et qu'on attaque notre cœur de sujet.
Ouais.
Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark.
All right, stand by.
Et voilà le petit avertissement sonore qui vous indique que nous allons être en full spoiler. Alors comme d'habitude j'ai envie de dire, mais en tout cas je préfère prévenir pour les personnes qui ne le sauraient pas et qui nous écouteraient peut-être pour la première fois, qui nous auraient découvert à QC, pourquoi pas, ou ailleurs, ou en livrant du Uber à quelqu'un de chez Star Wars en direct, pourquoi pas.
Ouais, gros bisous à Amara qui m'a reconnu hier en me livrant mon repas.
C'est ça. Ça, c'est quand même incroyable.
Si je m'attendais à celle-là,
tu m'étonnes.
Déjà, tous les gens qui m'ont reconnu à QC, simplement par ma voix.
Oui.
Je suis assez étonné. Mais alors là, le livreur Uber, au fin fond du 93, mais vous seriez pas Sylvain de Star Wars en direct ? Alors là, fallait le faire.
C'est clair.
Donc, gros bisous à Amara, puisqu'il nous écoutera.
Et moi, j'en profite pour faire un coucou à un membre dont je n'ai malheureusement pas le prénom, mais que j'avais croisé au championnat de France de sabre laser à Metz au début d'année, et qui m'a reconnu également, et qui savait que j'étais membre de Star Wars en direct, malgré que j'avais aucun signe distinctif, et avec qui j'ai discuté le bout de gras. J'espère qu'il écoutera cette émission. Je te fais un coucou. Voilà, ça c'était pour les petites dédicaces. Donc, on va faire un petit résumé. Alors, on avait dit qu'on ferait plus de résumé, c'est vrai, mais là, on va faire 3 épisodes d'un coup. 3 épisodes qui se suivent, 3 épisodes qui sont vraiment liés pour former un tout. Et surtout, on a dans nos auditeurs aussi des gens qui vont écouter cette émission pour ne pas en fait regarder la série, parce que la série ne leur convient pas forcément plus que ça, mais qu'ils ont envie quand même de savoir ce qui s'y est passé. Donc le petit résumé leur est destiné. Donc, épisode numéro 14, où on va retrouver en fait Crosshair, toujours détenu sur le mont Antis. Qui va réussir à en fait, alors c'est pas s'échapper, mais tenter de s'échapper, voilà, on va dire, à travers la base, qui va donc dézinguer quelques Stormtroopers au passage et qui va lancer un message de détresse codée au reste de son équipe en recalibrant une antenne. Message qui sera donc décrypté par, par notre ami Rex, si je dis pas de bêtises, puisqu'ils sont, eux, avec une autre escouade de clones en pleine recherche en fait, des clones qui ont été capturés par l'Empire. Ils sont un peu les Robins des Bois, les Zorro de l'ancienne armée de la République, puisqu'ils cherchent à récupérer leurs frères injustement emprisonnés. Donc le message va être transmis à la Bad Batch, qui est toujours sur sa petite planète balnéaire, tranquillou, dans l'espace, la bordure extérieure. Et puis évidemment, sera pris la décision d'aller sauver Crosshair. Et donc pour ce faire, ils vont se rendre dans un premier temps, puisqu'ils n'ont pas la localisation de la base où se trouve Crosshair, ils vont en fait détecter que le docteur Hemlock, donc le scientifique en chef de la base du Montantis, ils ont réussi à trouver des informations sur lui et ils savent qu'il est attendu pour une réunion au sommet avec le Moff Tarkin, puisqu'il n'est pas encore grand Moff, sur Eriadu, donc la fameuse planète bien connue maintenant de l'univers Star Wars, la planète d'origine du Moff Tarkin. Donc ils vont se rendre là-bas en mission d'infiltration pour, dans l'épisode 15, pour tenter d'obtenir les coordonnées de la base qui va leur permettre de libérer leur ex-compagnon. Pendant cette infiltration, les choses évidemment vont tourner un peu court. Déjà, ils vont faire une rencontre. Ils vont rencontrer en fait un autre infiltré dans cette base, So Guerrera, qui est là pour tout simplement dézinguer le maximum d'impériaux et faire sauter les installations qui sont donc installées dans une montagne. Peut-être est-ce le pic de la Charogne, puisque le pic de la Charogne est le nom du vaisseau de Tarkin, et on peut imaginer qu'il s'agit du nom de la montagne où est installée cette base. On n'a pas d'infos, mais c'est une supputation. Et puis donc, ils vont devoir s'échapper de la base, et lors de leur fuite, ils vont prendre un train, et ils vont se retrouver en fait coincés par l'explosion de la base qui va couper l'électricité. La Bad Batch se fait attaquer par des V-Wing, se fait attaquer par d'autres escouades de Stormtroopers, et ils vont devoir réussir à remettre le courant pour pouvoir finir leur fuite. Et nous allons perdre l'un des membres de la Bad Batch qui va se sacrifier pour permettre au reste de l'équipe de s'enfuir. Et ce membre, en fait, ce n'est autre que Tech qui va mourir dans une chute d'une bonne cinquantaine, centaine de mètres, on ne sait pas exactement, mais...
Ouais, d'un kilomètre, ouais.
Ouais, voilà. En tout cas,
la chute... On ne voit pas le sol.
On ne voit pas le sol. Et on est en pleine montagne, hein, donc on peut imaginer que les sommets sont hauts quand même. Et donc, la Bad Batch réussit donc à s'échapper, finalement, dans des conditions difficiles, puisqu'ils sont blessés. Ils doivent s'échapper sous les feux ennemis. Et puis, ils retournent, en fait, au seul endroit où ils auraient pu avoir quelqu'un pour les aider à soigner en fait les blessures. C'est donc chez Sid, au bar de Sid. Sauf que cette Sid, et on l'avait bien compris dès le début de la saison, cette Sid va les trahir et va les vendre à l'Empire pour avoir la paix, tout simplement, un peu à l'instar de Lando dans l'épisode 5. Et la Bad Batch est arrêtée, donc Hunter et Wrecker sont arrêtés par le docteur Hemlock, des Imperial Commando et des Stormtroopers. Omega va tenter de les libérer, et puis la situation va s'inverser, puisque Omega sera capturé, là où Hunter et Wrecker vont réussir à s'échapper. Et Echo, pardon, bien sûr, parce qu'on a oublié ce pauvre Echo qui s'est échappé également. Et donc, leur objectif à eux est de récupérer Omega, évidemment. Et Omega, elle est conduite évidemment sur le Montantis, où elle est attendue pour être un peu une sorte de cadeau pour Nalassé. Nalassé qui est très attachée à Omega, et le docteur Hemlock espère que avoir Omega à côté d'elle va activer en fait la possibilité de résoudre en fait la problématique de l'empereur et son travail de clonage, parce qu'ils sont là pour ça. Donc tout se met en place un petit peu. Nalassé informe tout le monde, informe le docteur Hemlock que le projet de l'empereur est absolument impossible. Omega est emmené dans des quartiers où on voit des cylindres avec probablement des clones qui sont en stase, avec d'autres clones qui sont sur des tables médicales, dont Crosshair. et arrive le docteur Emery qui révèle enfin, quelle est la sœur d'Oméga. Exactement, je suis ta sœur. Voilà, ça c'était pour la révélation et l'épisode se coupe là. Donc on reste sur une sorte de cliffhanger de fin de saison, avec d'un côté une Oméga qui va être complètement bouleversée par la révélation, dont on ne sait pas exactement à quoi
quel est le but.
Voilà. Et pourquoi ? Pourquoi ? Alors qu'on croyait que c'était la seule clone féminine de Jango Fett. Et une équipe de Bad Batch, quand même largement diminuée, qui va essayer de retrouver sa trace et de la libérer. Donc ça promet pour cette saison 3. Voilà donc pour le résumé, tout simplement. Donc mon cher Sylvain, si tu veux attaquer, donc ce que je te propose, c'est qu'on fasse un peu les arcs de personnages. Donc on va parler de la Bad Batch, on va parler d'Oméga, on va parler de Crosshair et on va parler en fait des Impériaux d'une manière générale et on va vous donner nos avis. Voilà, donc si tu veux attaquer, tu peux choisir l'angle d'attaque que tu souhaites.
Eh ben on attaque par Crosshair.
Ce pauvre Crosshair.
Ce pauvre Crosshair parce que c'est un bon soldat, mais il finit quand même en prison et attaché à une table d'opération pour servir de cobaye.
Est-ce que c'est un bon soldat déjà ? Parce qu'il obéit aux ordres, mais il a quand même trahi un peu ses coéquipiers.
Il trahit ses coéquipiers, mais pour moi, c'est le meilleur personnage, c'est bizarre à dire, hein, mais c'est le meilleur personnage de cette saison 3,
oui,
finalement.
Oui, tout à fait d'accord.
Il lui arrive plein de trucs, il se remet, alors pas très vite, mais il se remet en question quand il constate que être un bon petit soldat qui claque des talons, qui bombe le torse et qui fait tout ce qu'on lui demande, dans ce monde-là, chez les Impériaux, ça sert à rien en fait. Parce qu'on est considéré comme quantité négligeable.
Voilà, j'allais dire chair à canon.
C'est ça, de la chair à canon, malgré le fait que ce qui soit le top du top, au-delà de toute espérance et autres. Et il arrive, tout au long de cette saison, finalement, il s'en prend plein la tête. Alors, il est un bon petit soldat jusqu'au point de non-retour où il prend conscience que ça sert à rien et que s'il continue sur ce chemin, il finira mort quelque part et les Impériaux n'auront rien à secouer.
On s'est bien moqué de lui un petit peu.
On s'est bien moqué de lui, on l'a bien utilisé. Et sans le dire, sans qu'il prononce les mots, il se rend compte qu'il aurait été quand même mieux avec ses frères. Et que le fait que même capturer le seul truc qu'il prend, c'est pas forcément de se barrer, mais c'est de prévenir ses frangins que ça sent le roussi et que les autres vont tenter de les choper. Donc ouais, je suis triste pour lui, même si je suis enfin content qu'il ait ouvert les yeux. J'espère que très très vite, il va retrouver ses frères, quoi.
Moi, ce que j'ai envie de dire pour Crosshair, c'est que, alors, d'une manière générale, on va l'avoir pour d'autres personnages, mais je vais parler de lui en particulier à ce moment-là, on a une vraie évolution de personnage. Et on avait ce personnage qui, pendant une saison et demie, est arc-bouté sur ses croyances, et qui, tout à coup, avec cette prise de conscience, va évoluer. Alors, comme tu l'as dit, Sylvain, c'est vrai qu'il va mettre du temps, hein, il va mettre du temps à comprendre, mais il a une vraie évolution.
Garçon, hein, il est têtu. Il est intelligent, il faut lui expliquer longtemps, comme on dit.
C'est ça. Et en plus, le fait qu'il soit un soldat d'élite, très bon soldat, ça lui permet d'avoir des aptitudes que peut-être ses frères n'ont pas et de s'échapper. D'ailleurs, ça fait du bien de voir un peu des vrais tirs de blaster et pas des tirs paralysants. Puisque lui, il n'hésite pas à dessouder les Stormtroopers qui sont dans la base du Montantis pour pouvoir s'échapper, évidemment. Donc lui, il a bien compris que l'idée, c'est de se débarrasser de maximum.
Sur ce point, la Bad Batch, quand ils arrivent, au début, parce qu'ils sont en mode camouflage, on ne se fait pas repérer, une fois que c'est tir à volonté, il n'y a plus c'est plus de tir paralysant.
Après, on tire pour vraiment se défendre. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Même pour attaquer. Donc ça fait du bien aussi de revoir ça, parce que j'avais peur qu'on ait jusqu'à la fin les fameux rayons bleus paralysants, et finalement... On revient un peu dessus, donc moi ça me va. Donc Crosshair, vraie belle évolution. Franchement, l'épisode où il est envoyé en mission avec l'autre clone qui est tout seul parce qu'il a perdu toute son escouade, est vraiment incroyable.
Dans le monde neigé, là où.
Exactement.
C'est là où il prend vraiment conscience du bordel, parce que même l'épisode avec Cody l'avait préparé, tu vois, qu'il commençait à se poser des grosses questions.
Mais le questionnement vient justement de la défection de Cody, qu'il considère comme un vrai soldat et comme quelqu'un qui obéit aux ordres. Donc,
Le meilleur des meilleurs des meilleurs. Alors, même si là. Bon, ça me fait un peu mal là-dessus, parce que, en fait, j'ai l'impression que Filoni, il a décidé de faire que tous les clones, finalement, retournent leur veste, entre guillemets, et se barrent.
Ça m'embête aussi.
Je préfère ce qu'on voit dans les comics, où il y en a qui se barrent, il y en a d'autres qui n'en ont rien à taper, il y en a d'autres qui considèrent qu'ils ont fait leur boulot. Là, j'ai vraiment l'impression qu'avec Cody, il prend le parti que tous les clones sont un peu des grosses victimes. Et
ça m'embête.
Et moi aussi, ça m'embête. On ne voit pas. J'aurais limite préféré que Cody reste droit dans ses bottes.
C'est
Cody, c'est quand même le soldat qui a tenté de flinguer Obi-Wan, lui faire changer, dire oui, mais bon, je trouve
ça un peu
Rex, gros. Rex, ça me dérange pas qu'il change de cutie. Et puis
on lui a enlevé la puce. Cody, c'est pas le cas, en fait.
Il y a cette histoire de puce qui pourrait être bien, mais je préfère quand même la version de Karen Travis qui à l'ordre 66. Vous êtes gentils, les gars, mais ça, c'est dans le manuel. L'ordre 66, il est derrière l'ordre 65, il est juste avant l'ordre 67. Vous ne lisez jamais vos manuels ou pas ?
C'est ça.
Et là, ça me chagrine un peu, même si je trouve que l'épisode est super cool avec Cody, avec une ambiance. Idem pour celui enneigé avec le pauvre clone qui a perdu tous ses frangins et qui a recouvert de bandelettes son armure.
Parce qu'il a froid.
Mais voilà, c'est... Pour le destin de Cody, ouais, j'étais triste pour lui. J'ai vraiment été ce coup-ci, vraiment pris aux tripes.
Et justement, avant qu'on attaque sur un autre thème, je voudrais faire un aparté sur les clones qui sont avec Rex. Donc Rex a monté une escouade qui est composée notamment de Gregor. Qui est composé de clones qui font partie, alors je crois que c'est le 141e, je ne sais plus, donc
les verts en camouflage de gris,
de Kashyyyk, de gris, gris qui est mort, hein, puisqu'il a été tué par Yoda sur Kashyyyk, et on a vraiment, donc après il va les ramener sur Coruscant, la sénatrice est là, donc on voit le fameux clone qu'on avait vu dans la saison 2, je crois que c'était la saison 2, le fameux clone qui dit non, il faut qu'on arrête de se battre, et qui se fait arrêter par les impériaux derrière. Donc lui, il est libéré, et en fait, la sénatrice qui a voté contre la loi d'endoctrinement, elle prend le parti vraiment des clones et de faire quelque chose pour eux. Donc c'est vraiment un point que j'ai trouvé hyper intéressant.
Alors le truc, c'est un peu... J'aime bien ce qu'ils font, mais qu'ils se retrouvent tous sur Coruscant. Je trouve que c'est quand même un poil tôt pour dire ouais, en fait l'Empire c'est quand même une bande de gros neuneux et on peut se balader un peu comme on veut si on a les bons codes. Bon, Coruscant, c'est quand même normalement le siège de l'Empire, il y a l'Empereur, il y a Vador, il y a le noyau dur du bordel.
Je pense qu'il faut accepter que dès le départ, l'Empire, c'est un gruyère. On le voit même dans Andor, ils infiltrent une base. Tu le vois dans Bad Batch, tu le vois dans toutes les séries.
Ça.
Kenobi, Mando, voilà.
J'ai pas de truc. Le problème, c'est l'accumulation. Tu vois, c'est à force de montrer que c'est une passoire, on va finir par se dire, mais en fait, pourquoi il a fallu attendre Luke, Han et Leia pour leur mettre une branlée.
Mais tu le retrouves dans les jeux vidéo aussi, hein, dans Fallen Order et dans Survivor, t'infiltres des bases, et puis ça passe crème. Donc, en fait, j'ai le même sentiment que toi, mais j'ai décidé de l'accepter, de me dire que ça fait partie des mimiques.
C'est vrai, mais très souvent, pour Fallen Order et Survivor, Effectivement, tu passes crème, tu t'infiles dans des bases, dans des... Sauf que deux missions plus loin, il y a... T'ouvres une porte et c'est Dark Vador qui est derrière, quoi. Et là, tu vois, ça fait... C'est toujours le même truc un peu facile. Et je suis sûr que dans quelques années, les gens se demanderont réellement, mais putain, j'ai vu tout, j'ai tout lu. C'est des gros blaireaux.
Ouais, c'est ça, sûr.
Pourquoi ils ont peur de Vador alors que dans sa série de comics c'est un gros kéké qui se fait malmener par tout le monde,
même par des droïdes de combat, donc
même par des droïdes de combat, il est obligé de changer de bras et de jambes toutes les trois pages, de refaire intégralement son armure. Si on pouvait pour une fois montrer que en fait tu vas pas, en tout cas au début, tu vas pas sur Coruscant comme ça, même si t'as vieux codes ou t'as la... Non, c'est...
Ah mais je suis totalement d'accord avec toi, hein. Mais j'ai décidé de l'accepter, comme ça j'arrêterai de...
Ça, de râler. Ça,
voilà, exactement. donc si tu veux, on passe à la Bad Batch en elle-même.
Ouais.
La Bad Batch, moi je l'ai... Alors, la Bad Batch, on en a beaucoup parlé, on a dit que c'était des personnages très stéréotypés, un peu con-con, balourd, et je les ai trouvés vraiment dans leur rôle, c'est-à-dire qu'on a des personnages, c'est un commando, donc ils préparent leur mission, d'accord, ils prennent des renseignements, ils obtiennent des renseignements, donc le fait que cette base elle soit cachée sur une planète, la planète de Tarkin, donc ils décident de monter un commando, de monter une équipe, donc ils vont atterrir sur la planète, ils vont réussir à trouver, alors évidemment, comme c'est des anciens républiques, il y a des bases, elles sont un peu communes, donc les façons de faire et les protocoles sont un peu les mêmes, donc ils arrivent à trouver une entrée pour rentrer, etc. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris, bon déjà, c'est qu'ils sont en échec, et ça fait du bien aussi. On les a pas beaucoup vus se planter, un petit peu, mais pas à ce point-là. Là, évidemment, jusqu'au summum, où ils perdent l'un des leurs. Hein. Donc, on a dit, Tech va se sacrifier et mourir. Je vous l'affiche pour ceux qui,
ont l'image. Par contre, c'est encore un sacrifice à la con. Hein.
Ouais, mais moi, je trouve que c'est...
Non, moi, je range ouais, encore dans les, dans les sacrifices à la con, où je m'accroche à un truc. Ouais, c'est du... Ouh là là, si tu viens me rechercher tous des tâches...
C'est ça.
C'est le film Cliffhanger avec moins de Stallone et plus de trains téléphériques. Le mec est super méga.
Moi, ça me dérange pas là. En plus, c'est pas le plus fort. Je veux dire, tu vois, il est pas. C'est le commando qui est intelligent. C'est pas celui qui.
Justement, il est intelligent. Donc tu trouves des solutions. La gravité, tu connais, la force, les forces, la pression, la résistance des matériaux, tu connais.
Et il a trouvé la solution, justement.
Oui, de se décrocher, parce que sinon, tout le monde...
Parce qu'en fait, il a fait ses calculs en disant... Ah.
Si oui, alors les calculs, t'es déjà monté dans une cabine d'ascenseur?
Oui, dans une cabine d'ascenseur.
T'as déjà lu l'étiquette avec la charge
avec
maximum.
Poids,
d'après toi, si dans un ascenseur où ça te dit pas plus de 12 personnes, il se passe quoi si t'en mets 13?
Oh, je pense que ça, il se passe rien.
Hein. Il se passe
clairement,
rien.
Clairement, il y a une marge.
Tu sais pourquoi? Non, c'est pas que c'est une marge. Tu sais pourquoi il se passe rien? Parce qu'en fait, ça te dit de 13, mais tu peux en mettre 26 à l'intérieur.
D'accord, ouais, c'est carrément une belle marge. Hein.
C'est une belle marge, c'est juste...
C'est la marge de chez McDo, là.
C'est la marge de chez McDo, c'est même pas de la résistance des matériaux du câble, c'est simplement la force, enfin, la force que va pouvoir soulever le moteur.
Oui,
c'est
oui.
Juste ça, c'est pas du câblage, c'est juste
c'est,
que si
c'est
tu...
C'est pas le câble, c'est pas la résistance
c'est pas,
des câbles.
C'est pas le câble, c'est pas le sol de la cabine d'ascenseur. Là, c'est pareil, à un moment, il faut arrêter, le câble il va rompre, ou la cabine va rompre.
Attention, il n'y a pas menace d'effondrement, enfin de détachement, parce que le poids n'est pas bon. La menace c'est qu'ils ont été attaqués par des V-Wing, les V-Wing pour une fois ont réussi quand même à toucher quelque chose, et ils ont touché en fait les attaches, et c'est les attaches abîmées qui font que le train bascule et que le poids mal réparti peut entraîner toute la cabine vers l'avant.
Alors, c'est pas le train, c'est la dernière cabine.
Oui.
T'es qui est accroché à la dernière cabine.
Tout à fait.
Tu vas pas me dire qu'il y a pas cap. Tu vas pas me dire en plus, tu vois, c'est des commandos. Ils ont pas un grappin, ils en ont plusieurs.
Non, bien sûr. Mais par contre, on le voit, Sylvain. C'est que la première cabine, elle, est complètement détachée parce qu'elle a été abîmée. Et elle entraîne dans sa chute les griffes qui commencent à ripper et à se détacher du câble. Donc la deuxième cabine se détache également. Et c'est quand la première cabine se désolidarise de la deuxième que la deuxième, avec le poids, remonte, les griffes se resserrent et la cabine reprend son chemin. Donc moi, je n'ai pas trouvé vraiment que ça posait problème. Après, voilà, on peut en discuter, mais voilà. Mais la partie la plus intéressante, finalement, de la Bad Batch, c'est la fin. C'est qu'ils ont... Alors, c'est un peu le Infinity War, je trouve, de The Bad Batch, puisque donc, ils ont perdu l'un des leurs. Ils sont en déroute.
On n'a pas vu le corps.
On n'a pas vu le corps, mais...
On n'a pas vu le corps.
Ils n'ont pas d'alliés. Ils n'ont plus d'alliés. Ils se font trahir, même, je dirais. Et ils vont se faire... donc là, ils sont blessés. On voit quand même Wrecker, il a une grosse énerve. Wrecker, il a des bandages. Alors c'est rigolo, les bandages par au-dessus la,
ouais, par en dessus au-dessus l'armure,
la maison et pas l'armure. Ouais, donc, c'est classique dessin animé. Mais surtout, ils vont se faire arrêter en fait par une belle escouade de d'Imperial Commando qui vont venir avec Scorch notamment d'ailleurs, qui est présent également.
Alors, j'ai pas compris pourquoi c'est Scorch.
Pourquoi il est tout seul?
Ils sont devenus où, les trois autres qui sont morts?
On ne sait pas. D'ailleurs, on ne sait pas s'il s'appelle Scorch dans cette nouvelle univers.
Alors, je crois que si.
Est-ce qu'il a une Black Series
Mais non, de toute façon, les Black Series des Républiques
Corto,
elles existent au niveau Legend. Okay. Mais je crois, oui, j'ai vu filtrer quelque part, je crois... que même le site officiel dit que c'est Scorch.
Ouais. Ah bon, bah, si le site, c'est bon. Ouais. De toute façon, ils disent République Commando sur la figurine, effectivement, il n'y a pas de mention que c'est affilié particulièrement à Bad Batch. Bref, Scorch est là. Scorch est là, et c'est lui qui lead, même si on ne le voit pas, on le voit juste emmener Omega, en fait. Et c'est lui qui lead les Imperial Commando. Et là, on est vraiment... c'est vraiment l'Empire contre-attaque, quoi. Les gentils ont perdu, ils sont en déroute. Ils se font capturer, la situation est vraiment sous tension. Omega, elle est seule contre tous. Et puis la situation s'inverse. Et enfin, moi, j'ai trouvé que ce final avec la Bad Batch était absolument incroyable. On a d'ailleurs un nouveau marcheur. Je vous l'affiche à l'écran pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Un nouveau marcheur qui a un mix entre un AT-DP, donc celui qu'on voit dans Rebels, un mix entre l'AT-ST. Et c'est issu, si je ne m'abuse, d'un concept de Ralph McQuarrie également. Avec cette cabine hexagonale qui est très très moche. Alors encore, mais ça faisait longtemps quand même. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas trop eu ce genre de choses. Donc là, je suis pas pareil. Je suis pas embêté. Et puis les méchants qui vont gagner, hein, puisque c'est eux qui vont ramener Omega. Donc moi, je suis vachement content. Là, pareil, on a un dialogue qui est intéressant quand la Bad Batch est ils sont revenus chez Sid et que Omega se réveille. Ils expliquent à Omega que en fait c'est peut-être le moment de prendre entre guillemets la retraite, c'est-à-dire de disparaître, d'aller trouver un coin, pourquoi pas la planète où ils étaient, et de se faire tout petit parce que leurs beaux idéaux
sont morts avec Tech.
C'est ça. Et là aussi, on a une évolution de personnage. Je trouve que c'est assez rare dans les séries animées pour être souligné. C'est peut-être pas autant que ça aurait pu, évidemment. Hein. On peut ne pas s'en satisfaire. Moi, je trouve que c'était bien amené. On sait évidemment qu'ils ne vont pas prendre leur retraite tout de suite, puisque le but, c'est d'aller chercher Omega. Mais quelque part, il y a une idée qui reste dans un coin de la tête, qu'à la fin de la saison 3, peut-être, s'il ne meurt pas, il pourrait aller...
Saison 4.
Saison 4. Non, on est à saison 2, là. Ils ont dit qu'il y avait 3 saisons et que c'était la dernière.
Oh là, c'est moi qui suis bourré et qui suis fatigué.
Voilà. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était une belle évolution de personnage là aussi. Alors pas pour Omega, parce qu'Omega elle évolue pas.
Non, voilà. c'est ce qui est assez triste là-dedans, c'est qu'effectivement ils s'en prennent plein la tête.
Ouais,
vraiment. Ils perdent l'un de leurs frères, ils sont passés à ça tous de se faire.
De mourir.
De mourir et de se faire embarquer.
Ah, complètement.
Et ils ont une morale dans les chaussettes, et la seule réaction d'Omega, c'est même pas une réaction d'enfant, parce que t'as des enfants, quand ils sont confrontés au deuil, au malheur, ils savent ce que c'est, ils savent bien réagir. Là, c'est la réaction d'une petite conne, en mode non, il faut pas, il faut y retourner, il faut non, vous pouvez pas arrêter, en mode il faut se battre, machin. À ce moment-là, j'avais qu'une envie de lui foutre des claques à Omega. Littéralement, c'est vrai que c'est pas spécialement un personnage que j'apprécie.
Non, ça, on a remarqué.
Vous le savez. Mais là, c'est vraiment la première fois où j'avais envie de lui foutre deux claques. Ta gueule dans ta chambre ou de l'acheter contre un mur pour lui faire. C'est pas le moment de venir faire chier. C'est pas le moment de faire ta petite chieuse et de gueuler comme ça.
Alors, moi, je vais apporter un petit bémol. Ils ont passé en fait la saison à développer la relation d'Omega avec Tech et ce côté grand frère. Et le fait que lui meure à ce moment-là, on a vraiment le côté, elle va être complètement dévastée, puisque, alors, elle a déjà perdu, entre guillemets, Echo, même s'il est revenu pour ses épisodes finaux, mais il était parti donc en la laissant. Et puis là, à nouveau, elle perd celui qui était le plus, dont elle était le plus proche. Donc quelque part, je me dis que ça peut le faire. Ça me semble pas illogique, vraiment pas illogique.
C'est. Alors, je comprends tes arguments, j'entends ce que tu dis, mais c'est ça. Non, j'y crois. Sa réaction, pour moi, elle n'est pas humaine, en fait. J'arrive pas à croire à sa réaction.
Ouais, je comprends ce que c'est... tu veux dire.
Non, j'ai pas d'autre explication que j'arrive pas à croire à sa réaction. C'est encore une gamine. Je veux bien que. J'ai l'impression de voir la caricature de ce qu'un adulte pense qu'un gamin qui est confronté au deuil, au malheur fait, c'est-à-dire refuser tout, courir partout, et dire ah non, c'est pas possible, et puis j'y crois pas en ce personnage.
Ouais, après, c'est pas le personnage qui m'a le plus. Je me suis pas concentré sur elle dans ces épisodes. Moi, je l'ai trouvée égale à elle-même. Coup... Effectivement, elle peut être agaçante, mais pas plus que d'habitude, finalement.
Ouais, mais tu vois, on parlait justement de l'évolution de Crosshair, de l'évolution de la Bad Batch. J'ai l'impression qu'Omega, elle n'évolue pas.
Ah non, elle n'a pas évolué, elle. Mais justement, peut-être que son évolution, elle sera pour la saison 3. Hein.
Mais le problème, c'est que pour moi, là, c'est illogique. Tout le monde évolue, toi, moi, et on n'évolue pas. Toi, t'évolues d'abord, et puis bon, après.
Oui.
On évolue. Elle a vécu des choses. En plus, comme à chaque fois, c'est une équipe des forces spéciales qui ramène sur le terrain en pleine mission une gamine de 5 ans, qui voit des trucs, qui fait des trucs complètement dingues. Mmh. Alors, si elle évolue pas à vitesse grand V, je vois pas ce qu'il faut lui faire faire à la gamine, là,
pour
la
faire évoluer. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Après voilà. Bon, franchement, je pense que moi, je me concentrerai pas sur elle parce que globalement, j'ai quand même été assez satisfait de la saison dans son ensemble. Et là, ce qu'on a dans ces trois épisodes me convient totalement. Donc, franchement, c'est pas parfait, oui, mais j'ai envie de le laisser de côté pour le moment, en réalité. Donc voilà. Ça c'est pour Omega. Tu voulais rajouter la Bad Batch. Tu voulais rajouter autre chose sur la Bad Batch?
Non.
Ok.
Ça va aller.
On peut passer à. Qu'est-ce qu'il nous reste? Alors il nous reste les méchants.
Omega ou les impériaux?
Omega, on vient de la faire avec la Bad Batch.
Mm-hmm. On va attaquer les méchants.
On va attaquer les méchants. Ouais. Attaquons les méchants. Vas-y.
Eh ben, ils sont géniaux. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup ce qui se dit sur les impériaux, les relations. Parce qu'on a, tout. Je trouve qu'on a toute la galerie. La mission justement avec Cody et Crosshair. On a le petit con de base qui est un peu droit dans ses bottes, qui a le manuel et qui ne connaît rien à rien et surtout pas la réalité du terrain, qui pourtant est prêt à exécuter les gens au moindre prétexte, parce que c'est un manager macroniste 2.0 qui a la vérité. On a des gars comme le docteur qui est effrayant à souhait, alors qu'il n'est absolument pas violent, c'est juste que c'est même pas un scientifique fou, c'est un scientifique qui réfléchit froidement et calmement, et c'est ça qui est ultra flippant, parce que
je te coupe, je suis désolé, mais et pourtant il a quelque chose de un peu paternel. Alors moi je l'ai regardé en français, c'est peut-être le doublage qui fait ça. Moi je l'ai trouvé paternel. Alors il est paternel volontairement, hein, puisque c'est pour pouvoir aller dans son sens à lui. Mais je l'ai trouvé paternel avec Crosshair dans ce qu'il lui disait, et à la fin aussi un petit peu avec Hunter. On sent qu'il essaye de les brosser dans le sens du poil, évidemment, pour obtenir quelque chose.
Il m'a fait penser à Throne, justement. Calme, de très posé. Il dit les vérités froides. Et puis, j'ai vraiment l'impression que il pense pas directement j'ai qu'à les buter et puis problème réglé. Il essaye d'avoir la solution pacifique d'abord. Et puis, la solution d'enfoiré qui t'a tué tout le monde, elle arrivera après. Mais d'abord, il essaye la solution calme. Et c'est ce qui fait que le gars est super méga effrayant. Même, comme tu dis, même son interaction avec Crosshair, il lui explique calmement ce qu'il fait. Même le coup du gaz qu'il a créé spécifiquement pour les clones, pour les neutraliser. Le dialogue avec Omega ou avec les Kaminiens, il n'a pas l'air de s'intéresser plus que ça à Omega, sauf que pour lui, Omega, c'est un otage pour notre...
C'est un moyen de pression.
Il le sait.
Et pour lui, c'est presque un objet, quoi.
Ouais, voilà, c'est... T'as l'impression qu'il considère aussi les clones comme des objets, en se rappelant quand même que c'est des êtres vivants, pensifs, donc en y mettant un peu les formes, et je trouve que ça, il me fait penser aussi à Hannibal Lecter, en fait, le mec. Hannibal Lecter, le même type de raisonnement, le même type de gars.
Ouais, c'est pas faux.
Des méchants que j'adore, parce que j'ai à la fois envie de les balancer du haut d'un pont et à la fois de leur dire vas-y, fais ton truc, je veux te voir faire le salopard.
Ouais, c'est vrai. Mais il y a des méchants qu'on n'a pas parlé un peu de. Alors, c'est vrai que je les ai pas affichés, je suis un peu désolé, parce que j'avais des belles photos, mais on a une réunion, donc M-Lock est convoqué à une réunion sur Eriyadu, donc avec le Moff Tarkin. On a une super belle table, donc alors des bâtiments hyper impériaux que je trouve absolument somptueux. On a une table donc avec Tarkin, on a une table avec, évidemment, qui est Krennic, qui est là.
Un jeune Krennic aussi, je l'ai pas reconnu tout de suite.
Ah si, moi je l'ai capté tout de suite parce que je trouve que le modèle est pas mal réussi, mais effectivement, on est d'accord quand il le nomme.
Je l'ai pas capté tout de suite parce que c'est assez dans la pénombre finalement.
Oui.
Malgré les grandes baies vitrées, il y a peu de lumière. J'avais capté qu'il avait un costume blanc, mais c'est vraiment qu'en disant Krennic, j'ai dit « Oh putain, j'ai fait un arrêt sur image » et oui, c'est son visage, mais en jaune, quoi.
Et alors les deux autres, donc on a le général Ronadan, c'est un qui est qu'on voit dans Rogue One. Je crois qu'en fait on voit les deux dans Rogue One. Le dernier, je sais pas comment il s'appelle, mais et donc c'est pareil, c'est des petites choses, hein. Mais une réunion comme ça avec des hauts gradés impériaux, moi j'adore. Je trouve que ça rajoute vraiment de la vie. Et puis alors le petit détail que je vais mentionner, c'est cette table. Donc cette table qui est incroyable parce qu'en fait elle est ronde. Et il y a des chaises, et quand on regarde de haut, en fait, les chaises, ça forme le logo impérial. Et c'est vraiment le genre de détail à la con, mais que j'adore. Enfin, voilà.
Ouais, c'est...
On a aussi un truc excellent. Donc, on a les Stormtroopers qu'on connaissait, hein, les V1 des Stormtroopers. Et on a en fait des Shock Troopers impériaux avec des marquages rouges qui vont être affiliés à Tarkin et certainement à la protection des hauts gradés. Oh, moi, c'est pareil, c'est le genre de détail que j'aime bien. Ouais. C'est les petites choses.
C'est vrai que c'est sympa, cette... Alors, l'armure V du Stormtrooper version 1, c'est moi, l'armure de Ralph
McQuarrie.
Et là, ils font des mix avec cette armure et avec des marquages clones.
Ouais, ouais.
Je trouve que ça fait très cool.
Ça fait c'est vraiment tout ça. Ça fonctionne vraiment bien.
Ouais, ouais. Après, j'aime aussi le fait qu'ils aient chopé des commandos. Des commandos pour pour la protection de la base du docteur.
Oui, le fait qu'il y ait les Imperial Commandos.
Ouais.
Oui, ben on les voyait déjà dans la saison 1, hein. On voyait qu'il y en avait plein et que limite c'était eux qui entraînaient.
Et ce que j'aime aussi, c'est que les gars ont des marquages. C'est pas comme des Stormtroopers où ils ont l'armure entièrement blanche, ils ont des marquages qui reprend.
C'est un peu surprenant. Parce qu'en saison 1, ils avaient pas de marquage. Ils étaient tous blancs, et on nous expliquait en fait que les clones réguliers, ont retiré les impériaux demandaient à ce qu'ils retirent les marquages pour pouvoir en fait remettre tout à plat et qu'il n'y ait plus de différenciation et qu'ils soient tous au même niveau. Mmh. Hormis certains comme Cody qu'on a vu, mais qui s'est retrouvé sur des marquages gris. Donc comme un moyen.
Ouais, mais c'est le même gris, je trouve.
C'est le même gris. Cody. Mais ils n'avaient pas de marquage la saison dernière et maintenant ils en ont. Donc ça, moi je me demande quand même pourquoi.
Alors je pense que comme ils sont affectés, comme j'ai l'impression qu'ils sont affectés uniquement, qu'ils sont surtout aux ordres du docteur.
Ouais.
Peut-être qu'il a décidé de les marquer en gris pour dire c'est les miens, vous m'emmerdez pas, vous les emmerdez pas, c'est les miens.
Ouais,
c'est
vrai. C'est pas con. Donc voilà, cette base, je trouve vraiment les designs impériaux magnifiques dans toute la saison. La transition République-Empire, moi, elle me plaît vraiment. C'est vraiment un thème que j'aimerais voir explorer un peu plus loin. La base, elle est excellente. Enfin, le fait de voir des V-Wings sont encore en... Les V-Wings et les Venators, tout est encore en service. Enfin, je trouve que ça fonctionne. Alors, moi, j'ai juste un doute avec Jedi Fallen Order. Il faudrait... réinterroger la chronologie des deux pour voir si c'est cohérent par rapport au design. Parce que dans Jedi Fallen Order, je crois qu'on est un tout petit peu après, mais je ne suis pas complètement sûr, on a déjà totalement basculé sur des designs totalement intérieurs.
Stormtrooper.
Mais je pinaille, évidemment, comme d'habitude.
Alors, Fallen Order, c'est quoi? C'est 5 ans après?
Je crois que c'est 5 ans. Et là, on est sur 2 ans après, peut-être, ou 3 ans après.
Ça ne m'étonne pas, parce que Filoni fait les trucs dans son coin, et les développeurs du jeu font le truc. Il n'y a pas de... Ça ne me choque pas plus que ça. C'est vrai que ça pourrait être cool d'harmoniser les armures d'un support à l'autre, mais
les armures, les vaisseaux, les tout ça.
Oui, et je pense aussi peut-être que les fans du jeu ne regardent pas forcément la série The Bad Batch.
Donc
leur mets des mecs avec les armures de McQuarrie, ils vont rien comprendre.
Oui, c'est
clair. Tu leur mets autre chose que des TIE Fighters et de l'équipement bien vrai. Impérial, les mecs, ils vont pas comprendre non plus.
Surtout
que là, Survivor se passe... avant Rebels.
Ouais, un ou deux ans avant Rebels.
Je pense.
Plein d'empire. Hein.
Ouais, je pense qu'on est. On s'adresse pas au même public. Et si t'essayes de greffer des trucs de Filoni dans un truc de gamer, typiquement, tu vas pas aller. Les mecs, ils vont pas comprendre. Ils vont dire. Mais
non, après, c'est mon côté torturé qui essaye de replacer les morceaux du puzzle.
Ouais.
Donc, forcément, je me pose régulièrement ce genre de questions. Je voudrais faire un petit point sur le projet de l'empereur et puis sur la révélation finale. M'Lock parle bien à Nalassé du projet de l'Empereur. Donc l'Empereur a exterminé tous les cloneurs de Kamino pour les ramener pour son
bien... Il a exterminé tous les Kaminoens en récupérant la technologie et les cloneurs, donc les têtes d'affiche,
c'est ça.
pour les garder uniquement pour lui et pour son projet spécial.
C'est ça. Dont on ne nous dit pas de quoi il s'agit, mais...
Ouais, le projet spécial, c'est exactement le même dans Mandalorian. Hein.
Donc, bah, c'est ça. Pour moi, c'est le même.
Pour moi, c'est exactement le même, ce qui veut dire, encore une fois, que les impériaux sont des gros nuls, puisque en 40 ans, ils n'ont pas avancé d'un iota.
Alors, c'est marrant parce qu'ils n'ont pas avancé. Moi, je me suis dit la même chose, c'est qu'ils ont... En fait, ce n'est pas qu'ils n'ont pas avancé, c'est qu'ils n'ont pas réussi à combiner les différentes technologies pour réussir à créer un réceptacle qui permette d'activer les pouvoirs de la force ou de recevoir les pouvoirs de la force. Et pourtant, à un moment donné, ça va quand même bien marcher, puisque le Palpatine, il a bien un clone sur Exegol dans l'épisode 9. Donc, il y a un moment où la technologie, elle n'est pas au point, mais où elle va être au point. Ou alors, d'un côté, on te fait croire qu'elle n'est pas au point, et puis tu auras peut-être un autre contingent qui travaillera dessus et qui, lui, aura réussi à combiner les divers éléments à partir des travaux de l'un ou de l'autre. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était intéressant. Pareil, le design, je l'affiche aussi, hein, je l'ai déjà affiché tout à l'heure, mais
c'est
cette
très Frankenstein.
Salle, ouais,
très,
l'ambiance est pesante, mais pour moi, les clones qu'on voit dans les cylindres, ça ressemble vraiment à des vrais clones, hein, pas à des clones de Palpatine,
ouais,
des clones de clones.
Tu sais, sur celui qui est tout à droite, l'implantation des cheveux, c'est typique, pour moi, c'est typiquement l'ombre des cheveux qu'a de l'implémentation, qu'a Rex, qu'a Cody.
C'est ça, pour moi, pareil aussi. Pour moi aussi. Donc, est-ce que, en fait, Crosshair est la clé pour obtenir un clone, le clonage? Est-ce que Omega est la clé pour obtenir un clonage?
Je ne pourrais pas me prononcer parce que j'arrive pas à savoir ce qu'ils veulent. Enfin, si, on sait ce qu'ils veulent, c'est créer un clone de Palpatine, un clone forceux.
Oui.
Peu importe de qui on clone, il faut pouvoir que ce soit un forceux.
D'ailleurs, Sylvain, il ne faut pas oublier qu'ils ont réussi à faire un clone de Palpatine.
Oui, il s'appelle Snoke.
Non, ah non, pas du tout. C'est le fils de Palpatine, le père de Rey, mais qui n'est pas forceux.
Il n'avait pas la force. Ouais, voilà.
Mais ils ont réussi quand même à le cloner, donc ça veut dire que probablement que les recherches du montant de 6 vont déboucher sur quelque chose.
Vas-y. Effectivement, il y a ça, mais c'est tellement vague, c'est tellement pas expliqué clairement que même si on a la réponse, on se pose la question. Attends, il est bien en train de parler de ça. C'est bien ça qu'ils sont en train de faire.
Exactement.
Et c'est ça qui est un peu débile. Tu sais, ça me fait penser dans le comics Star Wars à Vador qui, après l'Empire contre-attaque, déboule sur Exegol et tombe face à la main coupée dans un bocal de Luke.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
À peu près 15 jours après les événements de l'Empire contre-attaque, et t'as déjà la flotte.
C'est ça.
Exegol qui est planté, j'ai dit, mais pourquoi vous l'avez
planté? Alors, c'est là où on a ce genre de problème qui est un peu. Alors, moi, je veux bien, hein, tu sais, on est là, ils essaient d'entretenir un peu le mystère. Quel est vraiment le projet de l'empereur? Ils nous ont fait la même dans Mandalorian. Je pense que le projet de l'empereur, on l'a à peu près compris. Hein,
c'est de se cloner, quoi.
C'est ça.
Ce qui permet fusionner avec
le transfert d'essence qui pourrait
déboucher sur la vraie immortalité rêvée de Palpatine ou des Sith. Mais tu te dis, entre les deux époques, il y a 40 piges, donc dans un univers, voire 50, ou je sais pas, mais je le fais à la louche, dans un monde qui te construit des stations de combat de la taille de planètes, de vaisseaux, de sabres laser, de machins.
Et qui ont cloné des millions, qui ont créé des millions de clones.
Des millions de clones, et tu veux me dire qu'aucun. Et en 10 ans, hein. En 10 ans. T'as un mec qui a les deux jambes et les deux bras coupés, qui est passé au barbecue, les mecs arrivent à le reconstruire, à le faire revivre. Bon, engoncé dans un armure, mais quand même, je te parle même pas de Grievous.
N'oublie pas quand même que Sylvain, ça va donner un clone, non forceux, mais ça donnera un clone. Quoi qu'il arrive, le projet, à mon avis, le projet, il aboutira. Il est pas bon parce que le clone, c'est pas celui qu'on voulait. Est-ce qu'il va être combiné à de l'ADN de Jango Fett ou d'Omega ou voilà, on sait pas. Mais
c'est pas.
Mais, je veux dire, là, on a le mystère. Bon, c'est bon, on a compris, on est au bout de deux saisons. Là, il serait peut-être temps de lever le mystère parce que ça. j'ai peur que ça en devienne ridicule. Sauf si c'est vraiment extrêmement bien fait. Mais là, j'ai peur que ce soit pas extrêmement bien fait non plus.
Ouais, j'ai pas non plus l'impression qu'on va avoir.
Ce sera mon petit bémol, quoi.
Ouais.
Et si on relie ça avec la révélation finale, donc le docteur Emery et la sœur, donc la sœur biologique, mais pas vraiment la sœur, puisqu'il s'agit d'un clone adulte d'Omega.
D'Omega.
Voilà, donc qui probablement a le vieillissement accéléré.
Ouais, donc un second clone féminin de Django, alors que ça fait deux saisons qu'on nous dit qu'Omega est la seule clone féminine de Django.
C'est ça.
D'où ma question, vu qu'on a celle-là, à quoi sert Omega ? Est-ce que Omega est une espèce de prototype féminin pour faire... pour faire passer la force, j'en sais rien, puisque c'est ce qu'on essayait de nous laisser supposer en début de saison 1, et c'est une idée pour moi qui était totalement abandonnée depuis, et ce qui est, encore une fois, elle a une grande sœur. Qu'est-ce que c'est que ce merdier, en
Alors,
fait
bah, techniquement, si on se réfère à l'âge à peu près qu'elles ont, donc Omega a une dizaine d'années, elle a, on peut lui donner plus de 20 ans, parce qu'elle est adulte. On pourrait presque même lui donner une trentaine d'années, mais ça ne correspondrait pas dans les dates. Donc, on peut imaginer que le docteur Emery, elle a du vieillissement accéléré. Donc, elle serait probablement née en même temps. Ou le docteur Emery, née allez, 2-3 ans, grand max, avant, avec un vieillissement accéléré, ce qui lui donnerait allez, 25-26.
Ah, pour moi, elle a le même âge que les clones normaux, hein.
Non, ils ont l'air plus vieux quand même, les clones normaux. Hein. Ils ont plus la vingtaine, là, elle a l'air d'avoir la vingtaine. Les clones normaux, ils ont plus entre 30 et 40, non ?
On fait voir l'image.
Attends, je la remets.
Bon, alors après, là, c'est du dessin animé.
Est... Oui, bien sûr, mais elle est pas si vieille que ça non plus, quoi.
T'as pas une image des visages des clones, là, non ?
Non, non. Attends, on a celui-là.
Ouais,
non,
sauf que lui et là, ses crosshairs, ils sont légèrement.
Vas-y, là, t'as Grégor. Il y a Grégor sur celui-là. Donc, pourquoi pas. Pourquoi pas. On pourrait les dater de la même, même âge, peut-être.
Pour moi, ils seraient de la même.
Génération 1. Génération 1 des clones. Ouais, c'est possible.
Mais encore une fois, je vois plus l'intérêt d'Omega, là. J'ai l'impression qu'ils essayent de rajouter du mystère par-dessus le mystère. Bref, de faire du compliqué par-dessus du compliqué. Et moi, j'ai une grosse crainte qui s'embrouille et que ça devienne ridicule, quoi.
Ben, c'est ça qui va déterminer la saison 3. Est-ce qu'elle va nous plaire, est-ce qu'elle va pas nous plaire ? C'est qu'est-ce qu'ils font de ça et comment ils arrivent à se dépatouiller avec leur surcouche sans que ça devienne ridicule et que ça emmêle les pinceaux de tout le monde.
Ouais, parce que là, le remplacement des clones par des gens normaux dans l'armée impériale, c'est bon, on avait compris. À mon avis, ils ne peuvent pas continuer à faire des boucles comme ça. T'es toujours là ?
Ouais, je suis là.
Ta caméra vient de...
Ouais, je sais, c'est rien.
Parce que pour moi, ils ne peuvent pas continuer à tourner en boucle sur le remplacement des clones, sur le destin des clones. Faut qu'on embraye direct sur Omega, sur ce qu'elle est réellement et à quoi elle sert. Et j'ai vraiment l'impression que ça part en sucette, parce que même la nana maintenant, la médecin, même si c'est une impériale, c'est une clone, donc techniquement c'est leur sœur. Tu les vois les buter direct, là ?
Non, alors, pour moi, le destin des clones, il est scellé dans cette saison 2. Je pense qu'on n'y reviendra pas directement, c'est-à-dire que la loi de retraite des clones a été votée, l'enrôlement militaire classique est lancé. Ils le disent bien, d'ailleurs, pendant la réunion. Tarkin dit, les clones, on en a encore quelques-uns, grosso modo, qui font bien le boulot, mais ça commence à être compliqué, donc on s'en occupe. Donc on s'en occupe, ça veut dire on les dégage, ça veut dire on les emprisonne, ça veut dire probablement même, peut-être, on va en éliminer une partie.
Ouais,
je pense qu'il y a une partie qui risque d'être supprimée. Donc, ça ne me semble pas... Alors, ils ne sont pas tous morts, hein, puisqu'on l'a vu dans Kenobi. Dans Kenobi qui se passe après, après ça.
Je pense que... il faut se demander si... La série Kenobi, les gens qui ont écrit la série Kenobi ont discuté avec Filoni, parce que si Filoni nous dit que par exemple Tarkin ordonne l'exécution de tous les clones, il va y avoir un problème avec les.
Non, Sylvain. Mais ah, Sylvain. On a combien de Jedi maintenant qui ont survécu à l'ordre 66? Franchement.
Oui, mais il y a
sincérité, je pense qu'on a, on a une bonne centaine, ce qui ne représente rien sur 10 000 Jedi dans la galaxie, je suis d'accord.
Mais donc, le problème du trooper de la 501, c'est qu'il est en armure, assis face à des impériaux. Donc, à un moment, je veux bien que les mecs soient stupides, mais si Tarkin a ordonné l'exécution de tous les clones, et que même 10 ans après, t'es un impérial et que tu te retrouves au détour d'une rue face à un clodo qui ressemble à Django barbu en armure de clone, à un moment,
ça va poser problème.
Je sais pas quoi, mais.
Non, je suis d'accord. Mais après, là, on est vraiment sur des.
On spécule, on spécule. Voilà.
Le destin des clones, il est scellé dans cette saison-là. On est dans la saison 3, on va probablement assister encore à des clones qui sont un petit peu là, mais qui vont progressivement être totalement remplacés par les Stormtroopers, et peut-être même, pourquoi pas, la V2 des Stormtroopers, donc les Stormtroopers qu'on connaît, et qui vont se déployer dans toute la galaxie. Ça ne m'étonnerait pas que dans la saison 3, on ait des Star Destroyers et puis des Venators, qu'on ait des TIE Fighters et plus des V-Wing, etc. Vraiment pour acter la transition totale de la République à l'Empire. Maintenant.
Alors, moi, un truc que je me demande, pourquoi des V-Wing? Pourquoi on ne voit que des V-Wing et pas des. Des ARC? C'est des ARC.
Ah oui, c'est vrai qu'on n'en a plus du tout. Comme si ça avait été
remis au placard. C'est un peu un truc. Parce qu'on continue à voir des gunships.
Ouais.
Donc la navette de combat, on continue à voir des V-Wing, mais on ne voit plus les ARC 170, qui avaient l'air, en tout cas, d'être dans l'épisode 3, et qui avaient l'air quand même d'être le gros des troupes à cette époque-là.
Il faudrait reprendre Clone Wars, j'ai pas l'impression, parce qu'en fait, on a les V-Wing, on a les anciens V-Wing, donc je sais pas si c'est des V-Wing vraiment, mais c'est des espèces de... Ils ressemblent à des E, quoi. C'est pas des E-Wing, mais ils ressemblent à des E vers le bas.
Oui, ce qu'on voit dans la série Clone Wars en 2D, qui se... Oui, exactement, je l'ai en maquette, là-haut.
Et ceux-là, ils sont aussi dans la série d'origine. Il y a les Z-95, qui sont également dans la série Clone Wars. Donc, ça fait pas mal de chasseurs. Et au final, c'est des chasseurs qu'on voit pas du tout. Parce que ils rentrent dans le même sac que les ARC 170. Et puis, il y a aussi l'affaire des... merde, je les ai perdus. Attends, les V-Wing, les ARC. Les gunships, ils sont là. Bon, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ce n'est pas grave.
Les Tide Defenders pas important. Non, ils sont tout pourris.
Non. Les Tide Defenders... Ce n'est pas tout de suite, les Tide Defenders. On aura peut-être, pourquoi pas, même une transition vers un prototype de chasseur Tide dans un premier temps. Hein. Peut-être qu'ils ne seront pas totalement... ils ne remplaceront peut-être pas totalement les V-Wing tout de suite, hein. C'est possible. Ça, on ne sait pas. En tout cas...
À moins qu'il fasse un bond dans le temps et qu'il nous sorte la carte magique.
Peut-être.
Quoi.
Peut-être. Un bond dans le temps de 2-3 ans. Mais ça veut dire qu'il galère à retrouver Omega, quoi. Après, je me dis que ça peut vraiment être sympa d'avoir un fil rouge complet qui les amène à, je ne sais pas, recruter des gens, infiltrer des impériaux pour récupérer du matériel, des machins, des bidules, pour pouvoir infiltrer le Montantis, déjà pour trouver où il est. Et infiltrer le Montantis et puis sauver Omega, quoi. Ça pourrait vraiment être intéressant.
Le problème que j'aurais là-dessus, c'est qu'il faudrait qu'il soit intelligent et ils ne l'ont jamais montré. C'est ça le truc.
Tu me fais une bonne transition, puisque je pense qu'on a fait le tour, sauf si tu veux rajouter. Alors non, j'ai encore un truc à dire. On n'a pas parlé de l'aspect visuel. L'aspect visuel que je trouve vraiment, vraiment, vraiment somptueux. Alors je l'ai trouvé vraiment top sur toute la saison. Mais je trouve que dans ces 3 épisodes, c'est magnifique. Je ne l'ai pas pris en capture d'écran. Enfin, je l'avais, mais il a disparu. Le plan où on a un croiseur Gozanti qui démarre d'une base impériale et qui est en orbite de la planète quand Rex les attaque. Enfin, ce plan-là, mais il pourrait être dans un film sans aucun problème. Tous les plans sur la planète, la base, elle est magnifique. Enfin, vraiment, les Stormtroopers sont magnifiques. Enfin, moi, je trouve... cette évolution du modèle Clone Wars 3D qui est vraiment top. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que dans cette saison, c'est encore plus joli. Les effets de lumière sur les derniers épisodes, ils sont vraiment... c'est vraiment quali, quoi. À la fin, quand ils s'échappent dans la ville, sur Ordmantel, avec les marcheurs et tout, il y a vraiment du jeu d'ombre et des lumières, des néons. C'est vraiment beau. Voilà. Je sais pas ce que t'en as pensé, Sylvain.
Ça va, effectivement, ça a vraiment une très belle gueule, comme on dit. Je trouve qu'en plus, là, ça, c'est les jeux de lumière, comme tu dis, les décors,
s'est amélioré.
À la fois amélioré, et puis on participait, voilà, à l'ambiance.
Ah oui, oui.
Très pesant, la lumière sur l'épisode sur Cody, celui dans la neige. Du mont, le mont Tantis, là, typiquement, tu vois, dans la salle de réunion, quand il y a l'alarme et que tout est bouclé et qu'ils sont dans le noir et que t'as finalement Tarkin en mode grand méchant qui dit non, mais on va continuer.
C'est bon, vous inquiétez pas, c'est
ça. Vous inquiétez pas, on continue, alors que ça doit être le sol qui est éclairé à ce moment-là. Ça fait vraiment, ça participe à l'ambiance. Même la lumière très crue des événements du tram, où tu sens que ça respire pas la joie avec cette lumière assez crue tout autour. Et puis,
ces nuages, cette brume qui entoure tout, voilà. Donc on sent vraiment, on est en hauteur. C'est super joli. C'est super joli. Moi, si on me fait... Alors, je rêvais déjà à une époque qu'il y ait des films d'animation avec cette patte graphique. On ne les a pas encore eus, mais pourquoi pas. Moi, je verrais bien La Nuit des Mille Larmes, La Purge mandalorienne avec ce format-là, ça ne me dérangerait vraiment pas. Et puis, la musique est excellente de bout en bout. Un Kevin Kiner, alors on a cessé de le dire pendant toute la saison, mais un Kevin Kiner qui est juste à son top, à son summum, et qui va avoir la chance de faire la musique de la série Ahsoka. Ce que je trouve... être une vraie consécration, et je trouve ça vraiment normal. Et il est déjà bon sur une série animée, alors qu'il n'a pas tous les instruments d'un orchestre symphonique, mais qu'est-ce qu'il peut donner avec un orchestre symphonique ? Ouais. Ah ouais, franchement, j'ai hâte d'entendre ça.
Pour moi, c'est vraiment l'héritier de John Williams sur
avec
Star
John
Wars.
Powell, avec John Powell, je dirais, c'est vraiment le trio à qui je confierais totalement, totalement. Donc voilà, ça c'est pour nos avis. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Sylvain, sur les épisodes en eux-mêmes?
Sur les épisodes en eux-mêmes, non. Par contre, un dernier truc sur le... Tu disais, on disait même que ça s'est amélioré qualitativement sur les lumières, tout ça. Par contre, les armures de la Bad Batch, saison 2, c'est de la merde. Elles sont hideuses.
C'est pas très beau.
Entre les pièces,
le mélange de couleurs.
Tu sens vraiment que t'as vraiment l'impression que c'est Omega qui a tout repeint. mais c'est dégueulasse.
Au moins, s'ils avaient croisé Sabine, ça aurait pu avoir de la gueule.
Ça aurait pu avoir de la gueule. Mais là, t'as du marron avec du vert turquoise.
Ouais, c'est pas beau.
C'est pas beau. C'est
pas beau. Et même, c'est pas les armures d'un commando qui doit se fondre un peu dans le...
Voilà,
dans la nuit,
déjà que...
on s'en éloigne.
Là, et c'est même pas le principe du... Oui, mais alors, les anciennes armures, elles étaient noires, grises et rouges sang avec un peu de blanc, donc on a tout changé. Ouais, mais là, c'est carrément, tu les as repeints, je te dis, t'as repeint...
Ouais, c'est vrai.
Tu les as repeints en turquoise, en jaune, en orange, en bleu. Mec, encore une fois, c'est des commandos.
Ben moi, je suis content qu'ils aient changé, parce que là aussi, ça, alors dès le début de la saison, mais ça acte une évolution dans les personnages. Ils se sont pas reposés sur le modèle qu'ils avaient, et dans la série en elle-même, les clones ne se sont pas reposés sur ce qu'ils avaient, mais ils ont fait une évolution, peut-être pour être plus mobile, parce que le fait d'enlever certaines pièces, c'est aussi pour être plus mobile. Par contre, c'est vrai que c'est moche, c'est pas beau. Pareil, alors, ça fera une deuxième série Hot Toys quand ils auront fini la première.
Alors je veux bien la mobilité, mais moi j'aurais toujours la malheureuse anecdote d'un soldat qui à Mogadiscio. Tu as déjà vu Black Hawk Down?
Non.
La chute du
Faucon Noir.
La chute du Faucon Noir.
Oui,
voilà.
Oui, je l'ai vu, je l'ai vu.
C'est, donc c'est une histoire vraie, machin, oui, tout oui. ça, tout ça. Il y a une anecdote terrible d'un des soldats. Alors c'est vrai qu'à l'époque, les gilets pare-balles, c'était vraiment le gilet en tissu où tu mettais ta bonne plaque en acier devant et derrière la plaque d'acier qui était épaisse comme ça, parce que sinon ça n'arrête pas une balle. Et le mec a dit ça fait 25 kilos cette merde, je vais retirer la plaque d'acier dans le dos parce que c'est trop lourd, et puis de toute façon on est en véhicule, on sort pas des véhicules, et puis si on sort, de toute façon j'irai au front face au danger, et je me ferai pas tirer dans le dos. Je te laisse deviner où la balle, par où la balle est arrivée quand il a été abattu. Voilà.
Je vois bien.
Donc, tu vois, graphiquement, ils sont encore graphiquement, ça fait des nouvelles Black Series, des nouvelles Hot Toys. Ça, on a changé le modèle numérique, on l'a adapté, il y a une gamine, blablabla. Le principe de base, c'est des commandos. C'est, ils ont des armures high-tech, ils ont des armures de protection. Le fait que, oui, mais alors on va retirer les cuissardes et les genouillères pour courir plus vite. Non, c'est pas. Tu retires de la protection, point.
Oui, je veux bien que
tu la mettes en rose fluo si ça te fait plaisir. Mais tu gardes. Tant qu'elle n'est pas pétée en deux. Tu gardes quoi? C'est ça qui m'a un peu énervé dans le design où ils ont retiré des plaques d'armure pour foutre des bandettes de tissu à la con.
Bah, heureusement, ils gardent leur casque quand même, ce qui est déjà bien.
Ouais, encore. Hein, le nombre de fois où ils les retirent, où Riker le porte au-dessus, là, c'est...
Et je me disais, tiens, puisque d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait d'un saut dans le temps. Et si, en fait, le saut dans le temps nous faisait voir Omega ado, et qui aurait été, alors pas réendoctriné totalement, mais qui, à force d'être au contact de sa sœur et enfermé dans le Montantis, aurait un peu baissé sa garde et se serait fondu un peu dans le moule. Moi, je me dis, ça pourrait être super intéressant, tu vois, que d'avoir la Bad Batch qui se pointe et puis elle qui veut pas y aller, quoi.
Ça pourrait être intéressant, je trouve que ça irait à l'encontre de ce qu'ils essayent, de ce que je comprends qu'ils essayent de nous dire. Donc,
c'est vrai.
Donc, ouais. Puis surtout, une Omega endoctrinée, t'as déjà la docteur. Pour moi, ça ferait doublon. Quoi.
Ouais, c'est pas faux.
Et puis, personne ne pourra reconnaître la petite chieuse si on en faisait une ado endoctrinée, donc pas d'intérêt.
Elle peut être une ado chieuse aussi, hein, tu sais.
Oui, mais là, alors, il n'y aurait plus aucune raison que la Bad Batch, un, veuille la sauver, et deux, ne la balance pas dans un broyeur à la première occasion. Donc.
Ah oui, je les vois bien faire ça, de la balancer du train pour gagner du poids.
Tiens, regarde, va voir là-bas si on y est.
Oh, regarde, tac, il est en bas. Allez, hop.
Et hop là, tu sais voler. Non, bah, t'aurais dû apprendre.
Qu'est-ce qu'on est cruel. On va conclure, Sylvain, avec une note. On va pas donner une note pour chaque épisode parce que ça n'a pas de sens, mais une note pour l'arc final.
Sur 20. Ok, une note sur 20. Allez, 15.
Ouais, moi j'aurais mis 16, on est raccord, ouais, on est raccord, je suis un peu plus généreux, donc sur ces bonnes, voire très bonnes notes, et qui conclut magnifiquement cette saison de Bad Batch, nous on va conclure cette émission de Star Wars en direct. Comme toujours, n'hésitez pas à venir partager avec vous les suggestions, vos avis, on en discute sur... Venez sur Discord, venez sur YouTube... venez sur ce que vous voulez, mais venez discuter avec nous.
Sur nos réseaux sociaux, on est là.
Sur nos réseaux, on est là.
On mord pas.
Non, on mord pas. Et d'ailleurs, vous l'avez très bien démontré quand vous étiez à QC en live, c'est qu'il y a eu de vrais échanges avec la communauté, en vrai, hein, pour le coup. Et c'était vraiment sympa que vous veniez nous voir, même si ceux qui étaient là.
T'étais pas là, toi ?
Non, j'étais pas là, mais tu vois, je fais partie de l'équipe. Mais que vous veniez nous voir, nous interpeller, nous dire ah ouais, machin, j'ai bien aimé ou j'ai pas aimé. Et c'était des échanges très intéressants. En tout cas, c'est le retour que vous nous en avez fait quand on en a débriefé tous ensemble. Donc voilà, et puis évidemment, mettez un pouce, hein, sinon Aude sera en colère. Et n'hésitez pas à partager les épisodes sur les réseaux sociaux et aidez-nous à faire croître la communauté et à avoir encore plus d'interactions avec vous. Voilà, et donc de la part de Sylvain et de la part de moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.